Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission où on fait la part belle à l'histoire bien sûr, mais où on voue aussi un culte à la bonne humeur, une émission qui surtout dépoussière l'histoire grâce à la provocante modernité de mon fidèle complice Stéphane Bern. Provocante modernité qui m'a encore frappé quand au moment de lancer l'émission, je lui ai dit « Vous êtes chaud Stéphane ?» et qu'il m'a répondu
« Oh yeah !»
Bonjour Stéphane Bern, quel millénial vous faites !
Ah oui, oui, je suis une provocante modernité, ça, ça va beaucoup. Ça va rester, ça va rester.
Chaque après-midi, vous le savez, Historiquement Vôtre, c'est la rencontre improbable de trois personnages issus d'époques différentes, mais qui avaient un point commun aujourd'hui, Stéphane ?
Oui, le thème du jour, c'est « Femme au volant, l'histoire au tournant ». Avec la duchesse d'Uzès, la première femme à avoir obtenu son certificat de capacité, le permis de conduire, si vous préférez. Ensuite, l'écrivaine Françoise Sagan, qui a eu durant toute sa vie un gros penchant pour les gros cylindrés, dirons-nous. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez une conductrice plus contemporaine, je crois.
Oui, alors j'aurais pu vous parler de notre consoeur Clémentine Portier-Kaltenbach, qui vivait de plus en plus mal les embouteillages parisiens il y a quelques jours encore.
Excréments, glandes potences, barons, pourriture, lâche.
Ça va mieux maintenant, mais je vous parlerai plutôt de Kendall Jenner, une star américaine qui collectionne les voitures de sport et elle s'embarrasse pas à klaxonner, elle l'écrase direct avec ses 5 gros Hummers.
Ah oui, vraiment. Et puis nous avons des 4x4, des tout-terrains, des SUV, comme on dit, dans l'émission.
Attention, comparaison, Stéphane. Je vous laisse y aller. Allez-y.
Avec nous. Je ne parlais pas physiquement. Ah. Je parlais, évidemment. Ils sont tout terrain sur l'histoire.
Oui, ils ont des gros pneus. Oui.
Alors, ne vous enfoncez pas, Stéphane. Hein, mais vous avez raison. Vous avez raison d'essayer.
Vous êtes tout terrain. Hein. Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
Et vous savez ce qu'on dit, enfin ce que disait Audiard, hein, conduire à Paris est une question de vocabulaire. Pour la chronique historiquement vôtre, c'est un peu pareil, mais aujourd'hui je me permets de m'affranchir totalement de votre thématique parce que nous sommes le 13 novembre et le 13 novembre c'est l'anniversaire de Mathieu Noël. Mmh. Alors
ça
nous partirons en Suisse, et oui car Mathieu est né à Genève et c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte le prénom du saint patron des percepteurs, des fiscalistes, des banquiers et des comptes numérotés. Il le savait pas, mais oui, manque total de culture biblique en ayant pourtant fréquenté assidûment Genève. Alors j'ai évoquerai pour vous les années collège de Mathieu. Un sujet bien intéressant, naturellement. Mais aussi le séjour en Suisse d'un autre individu qui lui aussi est intéressant et qui est Voltaire.
Oui,
vous le permettez.
Effectivement. Portrait croisé de moi et Voltaire, ça promet d'être intéressant. À mes côtés, David Kstelopch.
Oui, bonjour.
Alors, David, vous m'avez fait un cadeau pour mon anniversaire, David. Quelle invention vous racontez-vous aujourd'hui?
Deux choses. J'ai traite d'un sujet qui colle au thème de l'émission. Pour deux raisons.
Ah bon ?
C'est que ce sont l'invention des essuie-glaces.
C'est
une femme qui les a inventés.
Ouais.
C'est la première fois que vous êtes dans le thème doublement.
Dans le thème,
il y a deux thèmes.
C'est une femme qui était sur le capot et qui, pendant qu'on conduisait, essuyait le...
Bien.
Oh, le gros macho.
On va avancer. On est en 2020, je vous le rappelle. Donc bon, on avance, Stéphane.
Oui, alors, avec nous, Olivier Pouls, évidemment. Alors, une invention merveilleuse.
Très bien.
Le vinaigre balsamique. C'est ça, Olivier?
Et c'est mon présent pour le présent rare et cher et très précieux pour l'anniversaire de Mathieu. C'est du vinaigre balsamique. Franchement, c'est le roi des vinaigres. Et pourquoi est-il si rare? Pourquoi est-il si prestigieux? Pourquoi est-il parfois si cher? Vous en révélerez les secrets, entre autres, évidemment. Mais pas n'importe comment.
En revanche, je suis un peu inquiet parce que je ne le vois pas se matérialiser, ce cadeau.
Non, mais on n'y est pas encore. J'ai
une heure et demie. D'accord, vous l'avez dans votre bureau. Enfin, Stéphane, on a été obligé de poster un appariteur à vos côtés afin de s'assurer que vous ne trichiez pas. Et franchement, j'ai honte pour vous qu'on ait dû en arriver là.
Comment vous imaginez que je triche?
Oui, mais je n'imagine pas, on a les preuves. Mais nous jouerons sans le recours à votre smartphone, donc à Bern to be alive. Ce quiz d'histoire qui vous permet, chers auditeurs, de vous mesurer au célèbre présentateur de secrets d'histoire qui en tous ce qui le trahit. Mais nous découvrons d'abord notre première folle du volant de l'histoire, une pionnière assez épatante. Stéphane Bern nous raconte l'histoire de la duchesse d'Uzès.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Et oui, Mathieu, avant d'être duchesse d'Uzès, elle était en effet Anne de Mortemar. Une jeune fille pas vraiment jolie, mais riche. C'est ce qu'elle découvre à ses dépens à 19 ans lors de son premier bal en 1866. La marquise de Fontenay qui donne une fête en son honneur, et l'enjeu est de taille. Hein. Ce soir-là, Anne doit faire son entrée dans le petit monde de l'aristocratie parisienne auquel elle est prédestinée. Alors, la jeune femme se prépare depuis de longs mois pour être à la hauteur. Elle se livre à des séances d'essayage harassantes. Les couturières défilent jusqu'à trouver la robe parfaite qui lui permettra de quitter son château de province de la Marne, direction la capitale. Et le bal s'annonce bien. Les convives sont nombreux, variés et de tout premier rang. Les plus grands noms se côtoient, s'amusent, dansent, tout sauf une, Anne. Oui, qui passe la soirée assise sur une chaise. Elle fait tapisserie, comme on dit. Personne n'a le moindre égard pour elle. Personne ne l'invite. Personne même ne lui adresse la parole. En fin de soirée pourtant, lorsque la future duchesse s'approche du buffet pour tromper sa solitude avec un amuse-bouche, le maître d'hôtel insiste pour qu'on serve Mademoiselle de Mortemar. Et soudain, l'assistance se glace. C'est donc elle, Anne de Mortemar, l'arrière-petite-fille de la célèbre veuve Cliquot, celle qui a fait fortune grâce à son champagne. Oui, c'est bien elle. Vous savez, celle dont, quand la fille de la veuve Cliquot avait épousé les Mortemar, avait dit « Ils descendent des croisades et remontent par la cave ». Et comme par enchantement, en quelques secondes, l'atmosphère change. Mmh. Les jeunes hommes se pressent à ses côtés.
Ah bah tiens.
Ils lui font la conversation, ils lui proposent de danser, ils la courtisent. Voilà une leçon qu'Anne n'oubliera jamais. « Ce ne sera jamais pour moi-même que l'on me recherchera », note-t-elle le soir même des fêtes dans son journal intime. Bien sûr, cet épisode cruel ne fera pas encore d'elle le chauffard que l'histoire retiendra. Mais ce soir-là, son destin de future duchesse se profile. Car assise sur la chaise de son ennui, Anne n'a pas les yeux dans sa poche. Déjà parce que sa robe n'a pas de poche, mais aussi parce qu'un garçon retient toute son attention. Le duc de Crussol, futur duc d'Uzès, est beau. Trop beau pour elle, sans doute, puisqu'il ne la remarque même pas. Mais lui, au moins, a l'élégance de la continuité. Il ne change pas d'attitude lorsqu'il apprend qu'Anne est la descendante de la célèbre veuve Cliquot. Vous me direz que l'indifférence ne fait pas pour autant un bon mariage, et vous auriez raison. Mais il est des cas où l'indifférence n'est pas éternelle, Mathieu.
Qu'est-ce qui va se passer?
Tout comme la beauté du duc, d'ailleurs, qu'il va perdre brutalement quelques mois plus tard. Lors d'une partie de chasse, un coup de fusil dérape et notre Apollon reçoit une décharge de plomb au visage.
Aïe.
Il est défiguré. L'atroce situation redonne pourtant de l'espoir à Anne. Il ne me trouvera plus si laide maintenant que personne ne voudra de lui, écrit-elle ravie toujours dans son journal.
C'est vraiment une belle histoire d'amour que vous nous contez là, Stéphane. C'est vraiment une belle rencontre et ça donne de l'espoir.
C'est la revanche des moches. Cette fois, les astres semblent alignés. Aussi vilains l'un que l'autre, leurs familles respectives peuvent désormais imaginer sereinement des noces. Le 11 mai 1867, Amable Antoine Jacques Emmanuel de Crussol d'Uzès épouse donc Marie-Adrienne Anne Victurnienne Clémentine de Mortemar. 11 années passent, 4 enfants naissent et notre ancien beau finit par décéder d'une crise de saturnisme. Ah, le plomb. La duchesse...
Toujours vérifier les conduites en plomb, Stéphane. Je ne sais pas si vous avez bien fait ça.
Oui, j'ai fait
très
ça.
Très important, faire le diagnostic plomb. Hein.
Je vais vous quitter dans un instant pour aller vérifier. La désormais duchesse doit s'affranchir. Anne se retrouve à la tête de l'équipage de chasse à cour de son mari. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un travail à plein temps. Surtout qu'à l'époque, l'activité est réservée aux hommes. Les femmes se contentent de suivre le troupeau à cheval assises en Amazone. La duchesse d'Uzès, cependant, ne veut plus être reléguée au statut de spectatrice. Anne veut chasser le cerf. Elle organise donc des battues, elle s'occupe des hommes et des chiens, exite les robes longues, notre veuve préfère porter la jupe noire, la cravate blanche, un chapeau melon et une cravache qu'elle tient fermement en main. Et ce caractère de fonceuse va encore s'affirmer grâce à une nouvelle machine dont tout le monde commence à parler, l'automobile. Enfin, automobile, c'est un bien grand mot. Dès 1873, un inventeur français du nom d'Amédée Bollée met effectivement au point l'obéissante. Mais ce premier véhicule routier fonctionne encore à la vapeur et ressemble davantage à une locomotive qu'à une voiture. Il faut attendre le milieu des années 1880 pour que le moteur à explosion change la donne. Est-ce une invention du français Édouard de Lamare de Bouteville ou de l'allemand Karl Benz? Les historiens ne s'accordent pas sur ce point.
Ah, attendez, on va faire venir Castello Lopez.
Ah oui, exactement. Il se fera, j'en suis sûr, un de ces jours un plaisir de départager nos deux hommes. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les premières voitures ne seront commercialisées qu'en 1891, année où Michelin invente le pneu avec chambre à air. Cependant, à la fin du 19e siècle, les véhicules sont encore rares. Est-ce cela qui séduit notre duchesse? Oh, sans doute. D'autant que les récits des privilégiés, les quelques inventeurs qui peuvent s'offrir cette expérience, eux, se multiplient. Tous vivent l'automobilisme comme un sport à sensation. Pas question pour Anne de Mortemart de laisser lui échapper pareille invention. Le 12 mai 1898, la duchesse passe la seconde. Elle achète sa première voiture, une Delahaye type 1. Puis elle se décide à présenter le certificat de capacité pour la conduite des véhicules, l'ancêtre de notre permis de conduire. Problème, aucune femme n'a encore tenté l'expérience.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Des femmes au volant dans Historiquement Vôtre cet après-midi. Stéphane, vous nous racontez le destin de la duchesse d'Uzès qui a désormais une voiture, mais toujours pas le permis pour la conduire.
Oui, la duchesse d'Uzès décide donc de présenter le certificat de capacité pour la conduite des véhicules, l'ancêtre de notre permis de conduire. Imaginez la tête de l'examinateur qui a vu débarquer la duchesse d'Uzès, première femme supposée à présenter l'examen. Car à l'époque, Mathieu, les dames sont considérées comme inaptes. Ah, bien sûr, si elles en ont l'occasion, elles peuvent monter dans l'automobile, hein. Mais pas question de toucher au volant, ni même à la carte routière. Ce qui est mal connaître notre duchesse.
Alors racontez-nous Stéphane, en quoi consistaient les épreuves de ce premier permis de conduire?
Bon, déjà, il faut posséder son propre véhicule.
Il faut arriver au permis de conduire avec son véhicule.
Ben oui.
Moi, en Suisse, pour raconter une anecdote en Suisse quand même, pour vous dire l'époque, il y a un copain à moi qui s'était pointé au permis de conduire en Maserati. Et donc forcément, il n'avait pas eu son permis puisqu'on lui avait dit non, vous ne pouvez pas arriver avec votre véhicule. C'était l'inverse donc à l'époque, Stéphane.
Oui, surtout, mais il faut dire qu'il y en avait très peu à l'époque. On est à la fin du 19e siècle. Donc il faut posséder son propre véhicule, ce qui est sans doute le plus difficile et le plus cher, tant les manœuvres exigées ensuite apparaissent peu sophistiquées. Démarrage, arrêt, redémarrage, Anne réussit brillamment les exercices. Hein. On la déclare donc apte à conduire. Seulement voilà, 2 mois plus tard à peine, la duchesse prend la confiance. Le 3 juillet 1898, Anne d'Uzès de Mortemart devient le premier conducteur verbalisé pour excès de vitesse. Certains racontent qu'elle aurait été prise en flagrant délit dans le bois de Boulogne, roulante à plus de 15 km/h au lieu des 12 km/h réglementaires. On ne riait pas. L'événement défrait la chronique.
C'est-à-dire qu'on allait moins vite en voiture qu'en vélo.
Oui, bah oui, mais à l'époque, hein. Le tribunal de police de Paris la condamne à plus de 5 francs d'amende, soit l'équivalent de 200 euros. Mais la duchesse n'est pas à 5 francs près, d'autant que se faire pincer pour excès de vitesse devient le nouveau jeu à la mode pour l'aristocratie. Certains journaux comparent ces nouvelles amendes à des brevets de mondanité. C'est bien moins cher qu'une cotisation de cercle. Mmh. Et cela pose tout aussi bien, écrit le rédacteur du quotidien Le Matin, le 7 juillet 1898. Et la duchesse va très vite comprendre qu'en étant un objet de représentation sociale, la voiture peut devenir le lieu d'une première guerre des sexes. L'Automobile Club de France refuse la présence des dames en son sein. Mmh. La duchesse d'Uzès crée l'Automobile Club féminin de France, dont elle sera la présidente jusqu'à sa mort en 1933. Son but est clair, encourager les femmes à faire comme elle a toujours fait, s'émanciper des clichés.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler pied au plancher, enfin 15 km/h max, à parler de la duchesse d'Uzès, nous sommes avec l'historien Patrick de Gmelin. Bonjour.
Bonjour Mathieu et bon anniversaire.
Oh, merci Patrick, c'est vrai, vous y avez pensé, hein. Vous.
Ah, bah oui, lui, il y a pensé.
Contrairement à Stéphane. Et je pense au vinaigre balsamique, Mathieu.
ça c'est bien.
En tout cas, bonjour Patrick de Gmelin. Vous avez publié une biographie, il y a quelques années, hein, consacrée à la duchesse d'Uzès chez Perrin, une biographie qui fait encore référence. J'ai fini mon récit en évoquant l'Automobile Club Féminin de France qu'avait créé notre célèbre duchesse. Qui sont les membres de ce nouveau club et qu'est-ce qu'elle organisait, la duchesse, là-dedans?
Bah, écoutez, les membres du nouveau club, ce sont des dames, par définition, qui possèdent une automobile par définition. Donc ce sont plutôt des femmes du monde, plutôt des femmes riches. Donc quand je dis plutôt, ce sont des femmes du monde, des femmes riches, qui se passionnent pour l'automobile comme elle, et qui la rejoignent peu à peu. D'ailleurs, elle a le sens de la publicité, puisqu'on a une célèbre photo montrant la duchesse à côté de son automobile, tenant le petit fanion avec ce qu'on appellerait aujourd'hui le logo de l'automobile club féminin. Il ne faut pas oublier que c'est une des choses importantes chez la duchesse. Elle a le sens des réalités, et quand elle crée un club, elle veut qu'on le sache, qu'on le voit, et elle va organiser des quantités de compétitions, de courses, de rallyes en France et même à l'étranger. Et donc, ses adhérentes vont la suivre. On a des photos étonnantes où on voit la duchesse entourée de ses petites camarades, si je puis dire, qui sont toutes chapeautées, en robe, en manteau, et qui regardent d'un air vainqueur l'objectif photographique.
Patrick Demilly, aujourd'hui, quand on pense automobile, on pense course, on pense vitesse. À l'époque, visiblement, oui, les véhicules n'allaient pas très vite. C'est pas l'adrénaline qu'elle cherchait. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Qu'est-ce qui lui a plu dans l'automobile à la Duchesse d'Uzès? Le fait que les femmes, justement, n'y avaient pas accès dans un premier temps?
Non, je ne pense pas. Je pense que, bon, bien sûr, elle était très féministe, pas au sens de notre époque, mais par certains côtés, ça s'en rapprochait quand même. Je crois qu'elle était intéressée par tout ce qui était nouveau. Donc, l'automobile, c'est nouveau, elle s'y intéresse. Et comme en plus, elle a les moyens de s'offrir une voiture, la première a été une Delahaye, elle libère son plaisir, si je puis dire, son plaisir automobile, en s'offrant une voiture et en participant à cette extraordinaire aventure qui commence à ce moment-là, et elle est heureuse de faire partie de cette phalange de femmes qui vont pouvoir inscrire leur nom dans l'histoire de l'automobile. On l'a un peu oublié, ça, maintenant. Mais à l'époque, ce sont surtout les hommes qui font tout. D'ailleurs, elle va se battre pour beaucoup de choses. Et là, elle montre qu'une femme comme elle peut s'intéresser à cette nouveauté technique et presque technologique.
Mais Patrick, on peut revenir d'un mot sur cette duchesse d'Uzès, qui était une femme incroyable, qui a défrayé la chronique politique, d'abord parce qu'elle a financé le général Boulanger, la chronique mondaine, elle montait à cheval, mais elle montait en voiture, mais elle montait aussi beaucoup à cheval, elle avait un équipage incroyable, elle était une femme en avance sur son temps et en même temps une véritable aristocrate.
Oui, alors c'est toujours ce qui m'a plu chez elle. Elle était aristocrate, elle était duchesse, elle était née d'une très grande famille, les Mortemart, elle épouse un duchesse, grande famille ducale, mais en même temps, elle avait des goûts non pas populaires, mais elle s'intéressait à la vie des Français en général. Et cette espèce de contradiction, car à l'époque, les duchesses ou la haute aristocratie française regardent un petit peu de haut toute la France autour d'elle. Elle, ce n'est pas le cas. Elle va devenir amie avec Louise Michel, la Vierge Rouge de la Commune, et ça sera une véritable amitié, et elle va pouvoir exercer sa charité. Donc, ce que j'aime chez elle, c'est à la fois, je suis duchesse, mais je m'intéresse à tout, et je n'ignore pas le peuple au sens bon du terme. Il y a une espèce de contraste qu'on ne trouve pas facilement dans l'aristocratie française de l'époque, en particulier chez les femmes.
La duchesse d'Uzès est-elle réellement, comme l'a dit Stéphane, la première femme à passer son permis, le certificat de capacité pour la conduite de véhicule, comme on disait à l'époque?
Alors officiellement, oui. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de femmes avant elle, si il y en a eu, mais officiellement, c'est elle la première, comme elle est la première à être verbalisée. Donc, il y a pas une légende, mais c'est l'histoire officielle. Donc, officiellement, c'est notre duchesse et ma duchesse, on ne discute plus.
Voilà. Mais d'ailleurs, on les appelait comment? Les conductrices, comment on appelait les femmes au volant?
Alors, c'est assez drôle. Il y a eu toute une histoire autour de la nécessité de les désigner sous un terme. Alors, on a tout eu, toute une série de noms que je vous épargne, bon, parce que je ne m'en souviens pas totalement, mais on en a discuté de façon très sérieuse. Et d'autant plus que, dans l'esprit de ceux qui cherchaient le nom, celle qu'on va appeler finalement la chauffeuse était non seulement une personne qui conduisait une automobile à pétrole, mais qui en plus avait un espèce de look, dirait-on aujourd'hui, particulier. On l'imaginait les cheveux plats, une cigarette à la bouche et en train de conduire je veux pas dire crispé sur son volant, parce qu'à l'époque, il y a des volants, et pas simplement des volants, il y a une espèce de manette particulière. Donc, ça n'allait pas avec le profil de la Duchesse, qui n'était pas une très jolie femme, mais qui était habillée totalement comme une femme, et pas du tout correspondant à ce profil de chauffeuse. Donc, il y a eu effectivement, on s'est envoyé non pas des noms à la tête, mais chacun y a été de son idée, et finalement, il y a même eu chaufferette à un moment, ce qui est quand même un petit peu particulier, mais le mot conductrice, par exemple, est aussi apparu, mais c'est finalement le mot chauffeuse, le substantif chauffeuse, qui a été utilisé à cette époque.
Est-ce que les femmes vont suivre la Duchesse d'Uzès dans sa passion automobile? Est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement et on va noter que beaucoup de femmes vont essayer de passer leur permis de conduire, ou il faudra attendre beaucoup de temps avant de voir ça?
Non, je pense qu'il va falloir attendre pour les raisons que nous avons dit tout à l'heure et qui ont été très bien racontées par Stéphane et par Mathieu, qui est qu'il fallait avoir sa propre automobile. Donc ça réservait forcément une certaine classe de la société.
Ça coûtait combien une automobile à l'époque, Patrick?
Extraordinaire.
Ça coûtait combien si on devait rapporter en euros actuels, pour avoir une idée de ce que ça représentait une voiture à l'époque? C'était vraiment un objet de luxe inaccessible.
C'était un objet de luxe. À mon avis, c'est peut-être près de 30 ou 40 000 euros.
30 ou 40 000 euros, donc.
À peu près. Oui. Je pense à peu près. Donc ce n'était quand même pas à la portée de toutes les bourses.
Lorsqu'elle passe son permis de conduire, enfin son brevet de capacité, l'examinateur sait qui est la Duchesse d'Uzès?
Ah oui, on ne pouvait pas l'ignorer. On ne pouvait pas l'ignorer.
Elle était dans toutes les gazettes.
Ah oui, absolument. Donc ça, d'ailleurs, le fait même qu'elle ait passé son certificat d'aptitude a été dans la presse à l'époque. Vous vous rendez compte? Donc les examinateurs, car ils étaient plusieurs, savaient très bien qui elle était. Je pense qu'il y avait une honnêteté malgré tout. Vous l'avez raconté tout à l'heure, mettre en marche, arrêter, tourner le volant, il n'y avait pas de marche arrière et un créneau à faire comme on le fait maintenant. Ça n'existait pas. Mais malgré tout, il y a eu une honnêteté et on lui a donné son certificat de capacité. Je n'imagine pas qu'à l'époque, on ait pu lui refuser. Je ne le pense pas.
Ah. Tout à l'heure, j'ai dit un peu rapidement et certainement bêtement, je l'ai présenté comme une chauffarde.
Jamais, c'était
pas. Si, j'ai été rapidement. Une chauffarde, j'ai dit. Et elle n'était pas du tout chauffarde. Est-ce qu'elle conduisait bien, la Duchesse d'Uzès?
Alors, on sait. Nous n'avons pas, comment dirais-je, d'avis sur la manière dont elle conduisait, mais je pense que, comme beaucoup de choses, elle savait mener son automobile. Et je pense que sa première contravention, la seule d'ailleurs, qu'elle a quand même attrapé sa première prune, comme on dirait maintenant, elle l'a attrapé un mois et demi après son permis de conduire. Ça allait donc vite. Effectivement, on pense qu'elle dépassait les 15 km heure, assez extraordinaire, alors que la vitesse maximum était de 12 km heure. Quand on voit nos modernes compteurs passer de 12 à 15, c'est quand même particulier.
Oui. En tout cas, merci beaucoup Patrick de Gmelin. Je rappelle votre biographie consacrée à la Duchesse d'Uzès chez Perrin et votre dernier livre, François de Sales, Le gentilhomme de Dieu, aux éditions Omnibus. Merci beaucoup d'avoir
merci
été avec
à
nous.
Vous.
Au revoir Stéphane, au revoir Mathieu.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire sans se la raconter, c'est ça, historiquement vôtre. Et justement, elle nous raconte l'histoire avec Dans l'intimité des grands, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah bah dans l'intimité des grands, je veux mon neveu, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de Mathieu. Hein.
Oh
alors Mathieu, Mathieu, pour votre anniversaire, j'avais tout d'abord pensé rendre hommage à Jean Calvin, hein, le théologien et réformateur protestant. Bon, mais ça aurait été faire insulte à votre côté fêtard.
Oui, c'est vrai que je suis pas très calviniste.
Et puis en plus au XVIe siècle, durant les années où Calvin vivait à Genève, la population était obligée d'assister au culte, je vous y vois, hein, et n'avait droit ni à la danse ni au jeu de hasard.
Oh,
bon, qui sont quand même deux de vos péchés mignons.
C'est
en plus.
Vrai.
J'ai donc choisi d'évoquer aujourd'hui l'intimité d'un bon vivant, vous le disiez, et je suppose qu'il vous plaît davantage, Voltaire. Hein, évocation d'autant plus pertinente en ce jour anniversaire que vous-même, vous le disiez à l'instant, avez usé vos fonds de culottes courtes au lycée international de Ferney-Voltaire.
Tout à fait.
94% de réussite au bac, Stéphane, hein, quand même. Wow. Hein, je ne sais pas où vous êtes. Respect, je ne sais pas où vous étiez au lycée, Stéphane, mais
au lycée Carnot,
oui,
madame.
Ah, Paris. 98% de réussite.
Oh oui, ils doivent bien avoir avoir le même genre de pourcentage. Alors, Mathieu, en tout cas, lui, a usé, disais-je, ses fonds de culotte sur les mêmes bancs que David Pujadas, la romancière Nina Bouraoui et Florent Pagny. Mais pas
Florent Pagny.
Eh oui, oui, oui.
Bah, dis donc, j'ai fait son portrait plusieurs fois, j'avais jamais vu ça.
Ah bah moi, j'ai trouvé ça, à moins que je me sois alimenté à des sources incertaines et douteuses. Mais enfin, pas seulement, parce que tandis que vous séchiez les cours à Ferney Voltaire, votre contemporain Kim Jong-un, qui est né quand même 2 ans après vous, mais enfin grosso modo,
il
étudiait à Gümlingen près de Berne, et tout comme vous, il était un excellent joueur de basket. Et ouais, il est donc plus que probable que lors des rencontres au sommet Ferney-Gümlingen, vous ayez sympathisé avec Kim Jong-un.
Ah, c'était lui.
Il était sympa, c'était Kimi. On le surnommait Pakun. Il était scolarisé sous un pseudo.
Noël, on se serait Pakun, bien entendu.
Exactement. Ah mais c'est certainement, en tout cas, cette complicité virile nouée dans les vestiaires que vous devez, cette autorité naturelle avec laquelle vous menez aujourd'hui de main de maître le quiz Bern to be alive. Mais oui, c'est certainement ça. Alors,
surtout le côté sadique. Hein, je crois. J'ai beaucoup emprunté.
Eh ben oui, moi je suis sûr que c'est quelque chose comme ça. Mais revenons-en plutôt à Voltaire. Alors Voltaire, ayant accumulé une immense fortune en spéculation boursière et en droit d'auteur, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite, à vous aussi, Mathieu.
C'est mal parti.
Voltaire fait l'acquisition en 1758 du domaine de Ferney, dans le pays de Gex. Et c'est un endroit qui offre beaucoup d'avantages. D'abord, il est loin de Paris, parce qu'à Paris, il est persona non grata depuis 1754. Il est à la fois proche de la Suisse, donc s'il a des pépin avec le roi de France, à tout moment, il peut filer en Suisse. Et en même temps, il n'est pas à Genève, parce qu'à Genève, je le disais en commençant cette chronique, le théâtre, la danse, tout ça, c'est interdit.
Oui, c'est pas la bonne période.
Donc Ferney, c'est très malin, parce qu'au moins, il est à la fois hors de portée du roi de France et des pasteurs. Alors, dans ce hameau misérable peuplé de 40 sauvages, l'expression est de Voltaire, il entreprend de faire sa cité idéale. Alors, il commence par faire assécher les marais environnants, bâtir des maisons, paver les rues, construire une école.
C'est lui qui a fait la salle polyvalente aussi.
Lui, il se fait un petit théâtre dans une grange qui peut quand même accueillir 300 personnes et où il interprète ses propres pièces de théâtre. Mais ça s'appelait pas encore une salle polyvalente au 18e, Mathieu. Donc, Voltaire, sur son domaine, développe l'agriculture, il crée des manufactures de faïence, de tuiles, d'horlogie, de bas de soie. Vous saviez tout ça?
Il
a une activité florissante. Et puis, il se fait construire sa maison, naturellement,
son château
de 1758. Oui, alors, au départ, c'est une maison. Il en parle lui-même, ils ont une maison commode, rustique et confortable. Mais non, mais
il
s'est rendu compte après que c'était trop petit, compte tenu du nombre de visiteurs qu'il recevait. Il a fait ajouter 2 ailes à partir de 1765. Mais enfin, si vous y avez évidemment déjà été, je suppose, Mathieu, imaginez, chers auditeurs, depuis son jardin à la française, qui est agrémenté d'une pièce d'eau, on jouit d'un panorama inouï sur les Alpes, c'est absolument
grandiose.
Enfin, on
voit l'aéroport aussi maintenant.
Oui, c'est on est en bout de piste de l'aéroport de Genève point train.
Vous êtes des précis, messieurs, on s'en fout des Boeing.
Ah non, on s'en fout pas.
Ce sont les sommets qui nous intéressent. En tout cas, très vite, la demeure de Voltaire à Ferney devient l'étape obligée de l'élite européenne cultivée et il accueille jusqu'à 50 visiteurs par jour.
En tout cas, c'est géré par le Centre des Monuments Nationaux et ça a été superbement bien, non seulement restauré, mais réaménagé parce qu'en fait, les différents propriétaires avaient vendu tous les meubles et le CMN essaie de reconstituer comme ils peuvent le décor de Voltaire.
Bah, vous y avez été depuis l'année dernière, si je comprends bien, Stéphane.
Absolument,
ça a été restauré l'année dernière. Alors, vous
exactement.
Êtes, depuis son château de Ferney, Voltaire se dit l'aubergiste de l'Europe. Et là, vous me voyez venir, Mathieu, car vous-même, n'êtes-vous pas, d'une certaine manière, l'un des aubergistes d'Europe 1 hein?
Alors, c'est bien vu.
Ferney, en tout cas, était la période la plus intense de la vie de Voltaire. Je ne doute pas que celle de vos années lycée ait été à peu près équivalente. Mais lui, c'est là qu'il acquiert sa stature de justicier, parce que c'est depuis Ferney qu'il défend Calas et qu'il écrit son fameux traité sur la tolérance en 1762. Et c'est après 30 années d'exil, dont 20 passées à Ferney, que Voltaire retournera à Paris pour y recevoir un accueil triomphal et y mourir le 30 mai 1778 après 84 ans. Alors à sa mort, son ami le marquis de Villette rachète Ferney. Il dépose le coffret de Vermeil contenant le cœur de Voltaire dans la chambre de ce dernier sur un piédestal en marbre, trônant dans une niche tendue de voiles noires. Sur la porte de la chambre, le marquis fait écrire son esprit est partout et son cœur est ici. Et vous, Mathieu, votre corps est ici, mais votre esprit, c'est... Enfin, c'est pas grave.
Son esprit est dans son gâteau d'anniversaire.
On ne sait pas. Alors, écoutez, j'ai un cadeau. J'ai quand même un cadeau d'anniversaire. J'ai un cadeau d'anniversaire pour vous. Apprenez que dans les années 1860, comme le cœur de Voltaire s'est trouvé pris dans une invraisemblable querelle testamentaire entre ses héritiers, le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, en fut réduit à déclarer l'organe bien national. Donc Mathieu, la bonne nouvelle, vous l'ignoriez encore, hein, vous digne rejeton de Ferney-Voltaire, c'est que vous possédez un 67 millionième du cœur de Voltaire. Bon, me remerciez pas, ça me fait plaisir.
C'est un beau cadeau
ça
qui
me fait
vous
plaisir,
a pas
Mathieu,
cher.
Bon anniversaire.
Et ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Clémentine
Merci
pour cette chronique
Clémentine.
Bouleversante.
Ah, c'est formidable, formidable. Ces allers-retours avec la vie de Mathieu
on
Noël.
On se rend compte à quel point ma vie et celle de Voltaire sont intriquées, finalement. C'est
fabuleux. Et celle de Kim Jong-un aussi. Hein.
Oui, aussi, ne l'oublions pas. C'est vrai qu'il y a les deux influences, clairement, qui m'ont façonné. Les amis, réussir sa vie, c'est essentiellement réussir à la traverser en étant honnête, disait Malraux. Une maxime que devrait méditer Stéphane Bern.
Non, mais comment
pris deux fois la main dans le sac.
C'est
en
pas
train
vrai.
De tricher sur le quiz.
Mais
tout
non,
de suite.
Mais je vous assure. Non, mais franchement, je vais bien protester de ma bonne foi, mais vous voyez bien, je n'ai aucun moyen de tricher.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors, durant le disque, Stéphane me reprochait de l'avoir accusé de tricher dernièrement dans le quiz à tort. Je me permets donc de prendre nos auditeurs à témoin afin qu'ils tranchent le débat.
Oui, vous allez rajouter
voici,
des bruitages.
Absolument pas.
Des bruitages d'ordinateur.
In extenso. In extenso, voici un extrait du quiz d'avant-hier. Le général de Gaulle est mort exactement au même âge que son épouse Yvonne. Vrai ou faux?
Oh là là. Non, alors... Il est mort de mémoire. Attendez, il est mort à quel âge? Il avait quelques jours avant son 80e anniversaire, je crois.
Je vous rappelle une règle du quiz, vous avez gagné. Interdiction de regarder sur Google en même temps, hein?
Non, mais vous c'était un scandale.
Oui,
vous rendez compte que vous.
Vous a trahi, Stéphane, je crois.
Non. Vous rendez compte que vous rajoutez des bruitages d'ordinateur.
Mais je rajoute pour illustrer.
C'est de l'escroquerie.
Mais la tricherie est bel et bien là.
La radio, on
bien
peut
sûr.
Faire des choses comme ça.
On peut tricher, oui, effectivement, puisqu'on ne vous voit pas. Jouons à Bern to be alive sans tricher. Question numéro 1 pour vous, Stéphane, attention, je vous ai à l'œil. J'aimerais évoquer pour commencer ce quiz le célèbre neurologue autrichien fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Eh bien, il avait peur des fougères. Vrai ou faux, Stéphane?
Alors, je sais qu'il avait... je pense qu'il y avait un truc qu'il...
Oui, mais...
ça me dit quelque chose.
Truc,
hein.
Moi aussi, ça me dit... Quand ça dit quelque chose, vous m'avez toujours dit, Clémentine, qu'il faut se fier à l'intuition. Je crois que j'ai lu quelque chose là-dessus.
Moi écoutez aussi. Votre cœur.
Je dirais que oui, il avait peur des fougères.
Il avait peur des fougères.
Vous avez... gagné.
Vous avez gagné, Stéphane, à la loyale. Ce qui est important pour vous, il faut le souligner. Je vais vous dire quelque chose, Stéphane. Maintenant, c'est un moment historique dans le quiz, puisque là, vous pouvez gagner 10 points d'un coup.
Oh !
C'est une question bonus. Si vous répondez à cette question, vous avez 10 points. Cette peur des fougères qu'avait Sigmund Freud, comment s'appelle-t-elle ?
Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Fougère, la frugie... La frugophobie.
Il faut reprendre. Oui, la phobie.
La phobie des fougères.
Oui.
Mais ça doit. C'est pas fougère parce que c'est un.
Non, là j'aurais pas mis 10 points.
C'est un nom de.
Territophobe.
Il vient de prouver qu'il consultait son téléphone sous la table.
C'est pas beau, ça,
non,
Stéphane.
C'est pire que ça, on me signale une tricherie. On me signale une tricherie en régie. C'est déjà vu dans l'histoire de la radio. C'est la régie qui a triché en soufflant.
Ah bah moi, j'estime qu'on devrait lui enlever 10 points.
Alors là, c'est honteux, Stéphane. Et, on a vu avec quelle facilité vous avez accepté cette démarche non éthique en criant immédiatement la réponse. Pteridophobe, effectivement. Mais personne, même Maître Capello, ne connaissait pas ce mot. C'est la peur des fougères. Vous ne gagnez évidemment pas 10 points pour cette tricherie. Il Il avait aussi peur du nombre 69. Freud, ça n'a rien à voir. Question numéro 2.
Bah si, ça a à voir, hein, quand on connaît Freud.
Ah oui, effectivement. J'avais même pas pensé à ça, Stéphane. Parfois, vous réussissez à avoir l'esprit encore plus mal tourné que moi.
Oui.
Ce qui est assez incroyable. Clémentine, question numéro 2. En 1940, né des studios Léon Schlesinger, qui deviendront la Warner Bros., le personnage de Bugs Bunny. L'homme qui faisait sa voix était allergique aux carottes. Vrai ou faux? Là, on est vraiment au cœur de l'histoire.
Oui, hein. C'est
une
question.
Ce que c'est digne, c'est niveau agrégation. Là, hein. C'est pointu.
Je trouve que cette histoire est extrêmement jolie. Donc, elle mérite d'être vraie. Donc, je réponds oui.
Elle mérite d'être vraie, mais l'est-elle?
Vous avez perdu.
Vous rêvez trop la vie. Clémentine, voyez, vous aimeriez qu'elle soit l'image de ce que vous voulez, mais non, c'est faux. En fait, pour doubler Bugs Bunny et dire « Quoi de neuf, docteur ?» Je ne sais absolument pas le faire. Il utilisait des vraies carottes, mais les recrachait. On a cru qu'il était allergique, mais dans une interview, il a assuré que non. Ah bon, vous y avez quand même un fond de vérité. Vraiment, vous n'avez pas eu de bol, ma pauvre Clémentine. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern.
Oui.
Message à la régie, on arrête les conneries. Hein, on ne souffle pas à Stéphane. Aujourd'hui, c'est vendredi 13, je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais de ces propositions, une seule est vraie, laquelle? Le Titanic a quitté le port de Southampton à 13h13, ou alors dans le Titanic, il y avait 13 couples qui faisaient à bord leur lune de miel.
Ah, les deux sont beaux.
Hein. Les deux, c'est pas
13h13,
mal.
Ouais. Ou 13,
je
ne
vais pas vous influencer, vous avez vu sur les carottes, là je me suis planté. Donc...
Je serais tenté de dire 13h13, moi.
Vous avez...
C'est compliqué de partir à 13h13, d'autre part, Stéphane.
Oui, mais peut-être c'est un signe, quoi, pour... Ouais. pour
Parce que le temps qu'un bateau aussi gros s'éloigne du quai, est-ce qu'il est 13h13 ou 12?
Ouais, il voulait partir à 13h, et puis il avait 10 minutes de retard, il était 13h13.
Quoi, oui. Des questions cons peuvent entraîner des réponses intelligentes. 13 couples faisaient leur lune de miel sur le Titanic, tous ont connu des destins différents. Lucien avait 24 ans, sa femme Marie en avait 18, ils ont voyagé en deuxième classe. Au moment du naufrage, elle réussit à prendre le canot 6, mais pas Lucien. Son corps ne sera jamais retrouvé. Mais quand elle était à bord du paquebot, elle était déjà enceinte. Elle mit au monde un petit garçon prénommé Lucien, comme son papa.
Ah, l'enfant du miracle.
Et elle s'est remariée avec un autre survivant du Titanic, qui était lui en première classe. Bien joué. Puis après, ils ont divorcé. Comme quoi, c'était pas une si jolie histoire que ça. Question numéro 4. Clémentine, elle est pour vous cette question. Le mot assassin vient d'une secte islamique du 11e siècle. Ça voulait dire ceux qui fument du hashish. Vrai ou faux?
C'est vrai. Alors, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est le vieux de la montagne à la Moute. C'est là où était réfugiée la secte des hashishouyoun. Mais qui sont davantage les mangeurs de hashish que les fumeurs de hashish. Ils le mâchouillaient. En fait, on les entraînait militairement. Une nuit, on leur faisait entrevoir une vision du paradis et des houris.
C'est bon, Clémentine, t'auras pas plus de 2 points.
Oui, zut, mais je vous l'avez signalé 10, vous-même, Clément.
Toi, t'as failli en avoir 10 avec les fougères. Alors, excuse-moi, là, ton rideau, j'ai déjà oublié. Là.
Puisque vous me l'avez suggéré si intelligemment, Stéphane, effectivement, oui, Clémentine aura 2 points.
2 points.
Pour cette merci, question. Stéphane.
Où en sommes-nous des points? Oh, bah c'est triste, c'est une victoire de Clémentine portée Kaltenbach.
Oh, oui.
Je suis désolé, Stéphane, mais vous êtes bien défendu aujourd'hui.
Oui.
Même si vous avez eu recours à des tricheries, une fois de plus.
Mais aucune. Attendez, j'avais donné la bonne réponse, et là-dessus, en point bonus,
ah oui, c'est vrai, c'est
la régie, la régie qui n'en peut plus
vrai.
De votre parti pris contre moi, a voulu rééquilibrer les choses. Je remercie la régie. D'ailleurs, vous serez augmenté.
Les mecs sont en train de sauter derrière la vitre, Stéphane.
Oui, tu as raison.
Bah en tout cas, bravo quand même, Stéphane. Vous êtes bien défendu.
Merci beaucoup,
mais
Mathieu.
Ne trichez plus.
Mais je ne triche pas.
h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Pas de confinement pour l'histoire. Chaque après-midi avec Stéphane Bern, nous sommes fidèles au poste. Pas question de laisser la Covid gagner. Nous nous battrons jusqu'au bout, pas vrai Stéphane?
À l'abordage!
Oui, n'allez pas vous faire un lumbago non plus. Rappelez-nous plutôt le thème du jour, Stéphane.
Alors, notre thème, Mathieu, c'est les femmes au volant, l'histoire au tournant. Après la pionnière de l'automobile en France, la Duchesse d'Uzès, je vais vous parler de la passion de Françoise Sagan pour les voitures de course. Passion que partage avec Sagan notre troisième personnage du jour, n'est-ce pas Mathieu?
Oui, mais alors c'est vraiment le seul truc qu'elle partage avec Sagan. Je vous parlerai du garage incroyable de Kendall Jenner, une mannequin rendue célèbre via l'émission de télé-réalité Les Kardashians. Bonjour Vitesse, pour être le livre qu'elle écrit.
Sans oublier nos as de la chronique, puisqu'on parle voiture, il s'est beaucoup questionné sur le sujet qu'il allait pouvoir aborder. Il a hésité entre le feu rouge, les plaquettes de frein. Et finalement, David Castello-Lopez a choisi les essuie-glaces.
Mais oui, les essuie-glaces, parce qu'en plus, ça a été inventé par une femme. Donc ça colle,
donc, tout colle parfaitement aujourd'hui.
Tout colle parfaitement.
Vous êtes sur l'autoroute du succès, David, j'ai l'impression. À vos côtés, il a choisi de nous parler d'un thème pile poil hein, dans notre thème principal du jour.
Oui, je crois qu'on peut pas être plus raccord.
Olivier Fouls, vous nous parlez évidemment.
Ben, je vais vous raconter l'histoire passionnante du vinaigre balsamique.
J'aurais pu faire l'huile.
Le plus
l'huile
célèbre. Oui, c'est vrai. Le plus célèbre vinaigre du monde. Pourquoi est-il si bon, si précieux, si rare et si cher?
Un vinaigre que, soi-disant, vous comptez m'offrir pour mon anniversaire, puisque je rappelle aux auditeurs que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ils peuvent d'ailleurs envoyer un présent hein, aux deux rues
Stéphane. Rassurez-moi, c'est pas fête nationale quand même.
Alors, ça le sera peut-être dans le futur, mais en tout cas, vous deviez m'apporter le vinaigre.
Mais vous aimez le vinaigre balsamique? Parce j'adore qu'habituellement, ça. Vous n'aimez pas Merced, donc...
Oh, mais c'est qu'il est... Il est... Mais dis donc, Pouls, j'ai le droit de dire ce que je pense. Non, j'adore le vinaigre balsamique. Le mot de la fin, ce n'est pas vous qui l'aurez, c'est évidemment Stéphane. Alors Stéphane, je ne sais pas si c'est une fine allusion à ma vie personnelle. Vous me dites, avoir une chance de cocu aujourd'hui.
Oui,
c'est cette expression
absolument.
Que vous avez décortiquée pour nous.
Exactement.
Le jour de mon anniversaire, c'est finement vu.
Oui, enfin, n'y voyez aucun lien de cause à effet.
Et tout de suite, Stéphane, grimpons à bord de l'Aston Martin d'une écrivaine qui aimait autant l'asphalte que les mots. Françoise Sagan.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
J'ai représenté tous les vices et les péchés de la Terre. Voilà comment Françoise Sagan évoque son parcours alors que son existence touche à sa fin en 2002. Sexe, drogue, voiture et jeux d'argent, la romancière de génie née en 1935 n'a renoncé à aucun plaisir. Toujours avec excès et précocité. Comment ses parents de riches industriels bourgeois auraient pu imaginer que cet enfant chétif connaisse une gloire si puissante et scandaleuse? D'autant que Françoise Coiret, son nom de naissance, est une jeune fille timide à l'élocution hasardeuse. À l'âge de 3 ans, elle bégaye si fort qu'aucun membre de sa famille ne réussit à la comprendre. Elle a dû se mettre à écrire, dit-elle, pour pouvoir communiquer. Et ça marche. Non seulement Françoise se libère de ce corps qui refuse de lui obéir, mais très vite elle se prend de passion pour la littérature. Shakespeare, Colette, Proust, Sagan découvre à 13 ans que les mots sauvent et renseignent parfois plus sur la profondeur de la vie que la vie elle-même.
Bon, ça c'est magnifique Stéphane, c'est de vous ça?
Oui. Non mais ne relevez pas tout ce que je dis. Françoise n'est pas une enfant modèle pour autant. C'est une élève dissipée, effrontée, qui ne supporte pas l'autorité et qu'on renvoie régulièrement de la classe. La future romancière a soif d'aventure. Le bac la délivre bientôt. Elle plonge dans la nuit comme on entre en religion. Françoise va s'offrir tout entière au divertissement, faisant de la légèreté une profession de foi. À sa décharge, c'est vrai que dans le Paris des années 50, les nuits sont agitées. Le jazz a envahi les caves de Saint-Germain-des-Prés, Miles Davis croise Juliette Gréco, Sartre et Louis Armstrong, ce qui n'empêche pas Françoise de vivre aussi le jour à la Sorbonne où elle est inscrite comme étudiante. Mais l'enseignement qu'on lui dispense l'ennuie prodigieusement. Alors, elle rédige en 6 semaines ce qui deviendra son premier roman, Bonjour Tristesse. 2 mots extraits d'un poème d'Éluard, l'histoire d'une lycéenne aux mœurs légères qui passe l'été de ses 17 ans avec son père dans une villa sur la Côte d'Azur. Le manuscrit est immédiatement repéré, ce qui affole son père. Il craint que le nom de la famille soit sali par la publication du livre. Qu'à cela ne tienne. Françoise relit Proust et se trouve un nom d'emprunt. Adieu Coiret, bonjour Sagan. En 1954, René Julliard vend 500 000 exemplaires du roman. Le succès est immédiat. Et le scandale aussi. L'histoire de cette adolescente qui boit et qui couche par plaisir n'est pas du goût de tout le monde. Dans la France de René Coty, les femmes ont à peine le droit de vote et elles doivent encore demander l'autorisation à leur mari pour aller travailler. Les polémiques s'enchaînent donc, mais servent la promotion du livre. Le charmant petit monstre, comme l'a surnommé le romancier François Mauriac, devient riche en un rien de temps. La gloire, elle l'a rencontré à 18 ans, en 188 pages, c'était comme un coup de grisou pour reprendre ses mots. À quoi bon continuer à étudier dans ces conditions? Tout le monde attend déjà son deuxième roman et l'argent lui brûle les doigts. Alors, elle dépense sa fortune au casino, en alcool, en drogue et en voiture de sport. Sagan profite de ses premiers droits d'auteur pour acheter sa première Jaguar, une XK140 décapotable. La légende dit qu'elle aimait conduire ce bolide pieds nus. La réalité, c'est qu'un journaliste de Paris Match l'avait simplement surprise au retour de la plage, mais toujours les cheveux au vent. Seules les voitures découvrables, dira-t-elle, offrent une communion totale avec la nature. Il faut dire que sa passion ne vient pas de nulle part. Son père, Pierre Coirès, lui donne le goût des beaux véhicules. Et son frère Jacques s'amourache follement d'une Lamborghini Flying Star, unique exemplaire d'une voiture qui ne sera jamais produite en série. Seulement dans la famille, Sagan est celle qui a le goût du risque. Le 13 avril 1957, Françoise monte à bord de sa nouvelle Aston Martin avec quelques amis. La joyeuse bande se lance à vive allure sur la route nationale 448 près de Milly-la-Forêt dans l'Essonne.
Faut faire gaffe, ça glisse.
130, 140, 150, 160 km/h et la romancière ne voit pas le virage arriver. Le cabriolet s'envoie dans le décor, fait deux tonneaux et vient s'écraser dans un champ de blé. Sous l'effet du choc, les passagers sont éjectés. Sauf Françoise qui reste coincée dans la carcasse, tout le monde la croit morte. Et pourtant, la jeune femme survit. Mais à quel prix ? Ses multiples fractures du crâne, du thorax, du bassin, du poignet, de la clavicule la font souffrir atrocement. Alors, pour atténuer la douleur, les médecins lui administrent de la morphine pendant 3 mois. Sagan n'a pas 22 ans qu'elle en devient accro. La jeune romancière est alors envoyée en cure de désintoxication. Ce sera un échec. Toute sa vie durant, elle restera dépendante aux drogues, à l'alcool, aux médicaments et à la vitesse, forcément. En sortant de la clinique, Sagan s'achète une Maserati plus puissante encore que l'Aston Martin de l'accident. En juillet 58, elle revend la Maserati et se procure une AC Bristol rouge qu'elle échangera bientôt contre une Ferrari 250 GT Spider California. L'engin capable d'atteindre les 280 km/h est un cadeau qu'elle se fait à elle-même pour fêter le succès de son roman La Chamade en 1965. S'enchaînent ensuite pêle-mêle une nouvelle Jaguar de type E cette fois, une autre Aston Martin, une Gordini 24S 8 cylindres qui s'est illustrée entre les mains de Jean Béra au 24 heures du Mans 53 et enfin une longue Mercedes SL marron glacé qui sera celle des dernières années, juste assez atteinte par l'âge pour être élégante. Qui n'a jamais aimé la vitesse, n'a jamais aimé la vie, n'a jamais aimé personne, écrit-elle en 1984 dans son roman autobiographique Avec mon meilleur souvenir. Et oui, si les romans ont permis à l'écrivaine de s'acheter des voitures de sport, la vitesse résonne souvent dans l'œuvre de Sagan dès le début comme une prémonition. Dans Bonjour Tristesse, le personnage principal n'est-elle pas inconsciemment à l'origine de l'accident de la route de sa rivale, Anne ? Tristesse, culpabilité, mélancolie, vengeance, la vitesse est chez Sagan la reine de toutes les émotions. Elle aplatit les platanes au long des routes, elle allonge et distord les lettres lumineuses des postes à essence la nuit, elle décoiffe aussi les chagrins. On a beau être fou d'amour, en vain, on l'est moins à 200 à l'heure.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer toujours à 200 à l'heure, nous sommes avec l'écrivain Alain Vircondelet. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Alain Vircondelet, vous êtes universitaire, écrivain et biographe. Vous avez écrit Le Paris de Sagan aux éditions Alexandrine et Sagan, un charmant petit monstre chez Flammarion. Charmant petit monstre, un surnom que François Mauriac avait donné à Sagan. Il vous plaît ? Est-ce que c'est un charmant petit monstre sacré d'une certaine manière ?
Non, je crois que François Mauriac avait vu juste. Il avait tout de suite repéré ce petit personnage qui était frêle, fragile, qui s'habillait avec des jupes écossaises et qui avait autour du cou des colliers de perles fines, qui écrivait et qui était capable d'écrire des textes qui étaient scandaleux et qui faisaient scandale justement à cette époque, à l'époque dont vous avez dit qu'elle était celle de René Coty. Donc je crois que il avait trouvé cette formule tout à fait extraordinaire, mais il avait quand même eu l'occasion quelques mois plus tard, voyant comment Sagan se conduisait en dilapidant déjà la fortune que Julliard lui donnait d'avance, parce que le succès était énorme de Bonjour Tristesse. Il avait dit la petite sorcière qui se rend chaque soir à son sabbat sur son manche à balai d'or massif. Donc, il y avait quelque chose d'un peu perfide chez Mauriac quand il disait cela. Donc, à la fois, une sorte de bienveillance à l'égard de cette jeune fille, charmant petit monstre, mais en même temps, en ayant l'œil vif de Mauriac, qui était cruel aussi, et qui savait déceler ce que ce charmant petit monstre aussi pouvait faire c'est-à-dire dilapider son argent, utiliser son argent pour s'amuser. À une époque où justement l'économie était bourgeoise, donc il fallait, c'était une attitude qui n'était pas conforme aux mœurs et aux usages.
Alain Vircondelet, vous écrivez dans votre biographie de Sagan, « Le temps aura à ce jour retenu plus encore que son œuvre doucement scandaleuse et nostalgique, fragile et instinctive tout à la fois, l'histoire d'une femme libre et désinvolte, madone des casinos et des champs de course, icône de Saint-Tropez, de Saint-Germain-des-Prés et de Megève, aimant les voitures de course et les boîtes de nuit, l'alcool et la fête. » Le fait de toujours évoquer la personnalité de Sagan, on finit un peu par occulter son œuvre. C'est vrai que quand on pense Sagan, on pense à ça, l'amour des voitures. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt relire Sagan?
C'est le grand problème autour de Françoise Sagan. Quand j'ai rencontré Sagan à la fin de sa vie, où elle était tellement malheureuse, et elle me disait surtout, dites que je suis un écrivain. C'était assez pathétique. Et elle le disait avec beaucoup de gravité et beaucoup de tristesse, justement. Aujourd'hui, Sagan est presque un personnage sociologique. C'est un fait sociologique. C'est la fin de la guerre. C'est les années 50. C'est le début, justement, de la vie moderne. Et elle a participé à cela de façon scandaleuse, comme on sait.
Oui, mais elle a participé aussi à créer un mythe, Alain Vircondelet. Et elle l'assumait, elle aimait ce mythe qu'elle avait créé.
Alors, elle disait cette chose assez incroyable, elle disait « je porte ma réputation avec moi, ça m'ennuie finalement de devoir me battre ou de me débattre ou de me justifier de cette vie que je mène. Du coup, j'accepte la réputation que l'on me fait et je la porterai comme l'on porte une voilette », disait-elle.
Oh, c'est joli.
Mais c'est vrai
qu'elle aimait la vitesse. Ce qui plaît, c'est de vivre à 200 à l'heure et dans tous les domaines, pas seulement sur la route. Elle parlait très vite, c'était sans doute le résultat, en tout cas les stigmates de son bégayement d'enfance. Elle faisait tout très vite, j'ai l'impression.
Oui, c'est-à-dire, je pense que c'est véritablement une des dernières romantiques. Elle avait beaucoup d'admiration pour Alfred de Musset, qu'elle trouvait tout à fait extraordinaire dans son œuvre, et elle aimait vivre comme lui, finalement. C'est-à-dire qu'elle avait compris que la vie était absurde et elle ne voulait pas entrer dans le registre, par exemple, d'un Albert Camus. Elle préférait plutôt assumer ce constat et le vivre de façon presque délétère. Il y a quelque chose de profondément métaphysique chez elle. C'est un personnage qui n'est pas du tout celui que l'on croit. C'est un personnage qui s'ennuyait beaucoup, qui l'ennuie au sens de Moravia. Elle s'ennuyait, elle pensait que la vie ne valait peut-être pas la peine d'être vécue. Alors, puisque c'était ainsi, puisque la mort c'est l'immobilité, alors je vais utiliser le mouvement, parce que le mouvement sera la vie. Alors elle va vivre à 100 à l'heure, comme vous dites, et même beaucoup plus qu'à 100 à l'heure. Elle parle vite, elle bégaye, les mots se précipitent dans sa bouche, elle n'arrive pas à les contrôler, elle boit énormément,
elle s'auto-détruit.
Oui, mais parce que l'accident dont vous avez parlé, le fameux accident a joué sur sa santé, il a fallu qu'elle prenne des médicaments très puissants, des analgésiques très très forts, et elle a été comme cela soumise à l'opium pour dissiper sa douleur. Et elle est devenue justement opiomane et puis cocaïnomane aussi. Oui.
Stéphane a bien raconté le succès commercial aussi, les ventes notamment de Bonjour Tristesse. Pourtant, est-ce que c'est vrai qu'elle était convaincue de l'inutilité d'écrire après Marcel Proust ?
Bien oui, parce qu'elle disait que Marcel Proust avait atteint le sommet de la compréhension humaine et du mystère humain, qu'il avait percé le secret que cherchent tous les écrivains et les artistes, finalement. Donc, à quoi bon écrire? Vous savez, la fameuse phrase des romantiques, justement, dans les années 1840, c'était « à quoi bon ?» On les appelait les « à quoi bon ?» Eh bien, voilà, elle-même, elle dit « mais pourquoi écrire? À quoi bon écrire, finalement, puisque tout a été dit par Marcel Proust ?» Elle a emprunté d'ailleurs le nom de Sagan à un personnage féminin de Sagan, de La Recherche du Temps Perdu.
Et pourtant, vous la rapprochez des moralistes du XVIIe siècle comme Saint-Simon. C'est donc elle a apporté quelque chose d'important à la littérature française.
Ah, mais il y a dans son observation du monde une précision, voire quelquefois même une cruauté. C'est pour ça que je parlais de Saint-Simon. Il y a quelque chose de La Rochefoucauld, de La Bruyère et même de La Fontaine qu'elle admirait énormément.
Alain Vircandelet, juste pour avant de se terminer, un conseil lecture pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Sagan. Par quoi on commence?
Ah bien, écoutez, d'abord il faut commencer par Bonjour Tristesse.
Voilà, c'est le
ça, c'est quand même le livre fondateur et qui est d'une très grande modernité aussi. Ça, c'est clair. Et puis bon, c'est vrai qu'elle a écrit beaucoup d'autres romans qui sont tombés un petit peu, sinon dans l'oubli, du moins qui sont dont elle disait quelquefois qu'ils étaient inutiles, mais qui lui permettaient de payer ses impôts.
C'était
une occasion pour elle de payer ses impôts et ses voitures justement. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de lire tous ces journaux intimes et toutes ces mémoires, c'est-à-dire Derrière l'épaule et Toute ma sympathie, par exemple, ou alors Réplique, voilà, qui sont des ouvrages qui sont très accessibles aujourd'hui et qui sont très forts.
Alors c'est noté, nos auditeurs ont noté vos conseils lecture. Merci beaucoup Alain Vircandelet. Je rappelle les titres de vos deux livres consacrés à Sagan, Le Paris de Sagan aux éditions Alexandrine et Sagan, un charmant petit monstre chez Flammarion. Vous êtes actuellement, je crois, en train d'écrire un essai sur Le baiser de Klimt qui sortira en 2021.
Oui, il est même pas, il est fini.
Il est fini, il est bouclé.
Et voilà.
Il s'intitulera
et bon, on l'attend avec impatience.
De l'or dans la nuit de Vienne.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Femme au volant, l'histoire au tournant, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et après la duchesse d'Uzès, pionnière de l'automobile, et Françoise Sagan qui adorait les grosses cylindrées, vous nous livrez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une troisième folle de vitesse plus proche de nous. Enfin, d'une certaine manière plus proche.
Oui, et d'abord, une très belle femme d'à peine 24 ans. Alors, je sais, Olivier Pouls, vous n'aimez pas trop les Américaines.
Elles sont 4 fois plus grosses et elles ont 4 fois moins de goût.
Je vous en prie, Olivier. Je vous en prie. Donc là, vous risquez de changer d'avis si je vous montre des photos de Kendall Jenner. Alors, mon cochon, toujours rebuté par les Américaines.
On est chaud, on est bouillant.
Évidemment, Kendall Jenner, c'est tout simplement la mannequin la mieux payée au monde en 2018, il y a une raison pour ça. Son nom vous est familier, j'en ai déjà parlé ici même, elle fait partie du clan Kardashian. Pour rappel, c'est très simple, hein, Kendall Jenner, c'est la sœur de Kylie Jenner et la demi-sœur de Kim, Khloé et Kourtney Kardashian. Son père, c'est Kris Jenner, ex-épouse de Robert Kardashian. Son père, c'est Caitlyn Jenner, qui n'est autre que le décathlonien Bruce Jenner, qui a changé de sexe. Vous n'avez rien compris? Faites comme Stéphane lorsque, dans un dîner mondain, on lui présente une comtesse qu'il ne remet pas du tout. Dites avec un ton assuré quand on vous demande si vous vous souvenez.
Oui, très bien.
Kendall Jenner naît le 3... Je suis sûr que vous l'avez fait plusieurs fois, ça, Stéphane.
Évidemment, on est poli, on n'est pas des goujats.
Kendall Jenner naît le 3 novembre 1995 à Los Angeles, non pas avec une cuillère en argent dans la bouche, parce que ça finalement c'est à la portée du premier millionnaire venu. Non, elle naît avec un biberon Gucci en or massif dans la bouche. Mais à part susauter ses bibes incrustées de diamants et poser en selfie la moue faussement surprise façon selfie miroir avec pour tout vêtement un string ficelle de l'épaisseur d'un filet à rôti, à quoi aspire Kendall? Quels sont ses hobbies, ses craintes, ses passions? Je sais ce que vous vous dites, Stéphane.
Tout le monde s'en fout.
Eh bien non. Visiblement, tout le monde ne s'en fout pas puisque Kendall Jenner a plus de 141 millions de followers sur Instagram.
Wow.
Oui, 141 millions. Et en me penchant sur sa biographie, derrière l'image de starlette écervelée faisant des doigts d'honneur au paparazzi filant son Hummer devant la boutique Dior de Sunset Boulevard, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, une sorte de Françoise Sagan bis. Parfaitement. Je n'ai d'ailleurs qu'à reprendre vos propres mots tout à l'heure concernant Sagan, Stéphane, je vous cite. Sexe, drogue, voiture et jeu d'argent, elle n'a renoncé à aucun plaisir, toujours avec excès et précocité. Mais c'est le portrait psychologique de Kendall. Elle aussi a été timide, enfant. Vous avez dit, Françoise, jeune fille timide à l'élocution hasardeuse. Mais très vite, elle découvre Shakespeare, Colette, Proust et découvre que les mots sauvent. Bon, ça c'est parce que coup de bol, les parents de Sagan avaient une bibliothèque. Ceux de Kendall n'en avaient pas, mais ils avaient un gros garage. Son père, qui était alors encore un homme, était déjà un grand collectionneur de bagnoles. C'est d'ailleurs en partie en parlant bolide qu'il avait séduit sa mère.
Vous voyez l'automobile derrière moi? Eh bien, elle est absolument impeccable. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
On est chic de génération en génération chez les Jenner. J'ai été éduqué pour être un garçon manqué, explique Kendall dans un passionnant portrait que lui consacre la chaîne CNN Style. Mon père m'a fait aimer ces choses. J'ai toujours été intéressé par les motos tout-terrain, les quads. C'est aussi un truc typiquement LA d'aimer les voitures. Quand tu es jeune, conduire est la seule chose que tu veux faire. Perso, je me souviens de deux, trois autres trucs, mais enfin, encore faut-il décrocher son permis. Je sais pas, autour de cette table, si vous l'avez eu du premier coup.
Oui. Non, moi je ne l'ai pas. Voilà,
vous êtes vraiment le bobo dans toute sa splendeur. Vous n'avez pas de permis.
Je me suis inscrit cette année. Voilà, je vais essayer de voir ce que... Oui.
C'est vrai que c'est l'année ou jamais.
Peut-être qu'il le donne. Vous, Paul, vous l'avez eu du premier coup?
Oui. Créneau réussi, les doigts dans le nez.
Stéphane?
Troisième fois.
Et pourtant, c'était lors de votre service militaire en Indochine. Non, il le donnait à l'époque.
Non.
Kendall, elle, les a mis la foirée 17 fois. Donc 4 voilà. Sous l'œil des caméras de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian.
Et des cruches.
Ne jugeons pas, Stéphane, ne jugeons pas. À sa décharge, la manœuvre demandée par l'examinateur est vicieuse. Un créneau arrière en épi. C'est aussi une position du Kama Sutra et c'est très dur aussi. Finalement, elle décrochera le précieux sésame et là démarre sa collection. Car oui, Stéphane, si vous collectionnez les fèves, pulses, les bouchons de Liège et Castello, les pots de Tipex, Kendall, elle, dès ses 16 ans, collectionne les voitures de luxe. Voiture qu'elle fait en outre customiser en modifiant le son du klaxon afin, je la cite, de ne pas être comme tout le monde. Alors, je te rassure, Kendall, même sans le klaxon cucaracha avec le thème du parrain, une gamine qui conduit une Lamborghini Huracan décapotable avec des jantes en or rose, ce n'est pas tout à fait comme tout le monde. À la question, mais enfin, Kendall, c'est dingue, combien de voitures possédez-vous? Elle répond, mutine, oh my god, I have no fucking idea. 20, 25, 40, I have to check. Alors, d'après nos estimations, elle en aurait actuellement une trentaine, Cadillac Eldorado, Ferrari California, en passant par tout un tas de Range Rover, de Lamborghini, de Mercedes et autres Porsche. Pas de Renault ni de Citroën, à ma connaissance. Alors vous allez me dire, même quand on est riche, 30 supercars, ça reste beaucoup d'argent, et sans compter l'entretien et les abonnements télépéages. Mais Kendall a trouvé une astuce que je conseille à tous les pauvres qui nous écoutent. Ne pas acheter ces voitures, mais se les faire offrir. C'est beaucoup plus malin, mais ça c'est les pauvres Stéphane, ils ne réfléchissent pas, c'est leur problème, et après ils roulent en Logan et ils râlent. Le jour de ses 16 ans, Kendall reçoit sa première Range. Cadeau de maman. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé la mienne pour lui dire qu'elle pouvait le reprendre, son Discman pourri et son herbier. Puis, pour ses 21 ans, elle reçoit une superbe Rolls-Royce offerte par son mec, son papa, c'est... Non, de la part d'un parfait inconnu. Sa sœur Chloé, présente à la soirée, témoigne. À un moment, on est allé à l'extérieur et il y avait un mec qui se tenait debout à côté d'une Rolls-Royce. Dans ma tête, je me suis demandé, c'est quoi le cadeau? Le mec ou la voiture? Je me demandais d'où pouvait bien sortir ce type que personne ne connaissait. Je pensais que c'était une blague. Et puis, il s'est approché et il a tendu les clés de la Rolls à Kendall. J'ignorais qu'on pouvait se voir offrir une voiture par un parfait inconnu. Bah, nous aussi, Chloé, on ignorait. Je
fais bien, Chloé.
Je fais pas mal, Chloé. Hein. Oui. Quand on pense qu'à la rédaction d'Europe 1, on a pleuré d'émotion quand un auditeur nous avait envoyé des confitures maison.
En plus, c'est vrai.
En 2016, Kendall s'éloigne encore un peu plus de Sagan. En poussant sa passion des voitures un cran plus loin, elle organise pour l'une d'entre elles une car baby shower. C'est comme une baby shower, mais pour une voiture. Oui, elle offre une fête à sa nouvelle Ferrari. C'est une fille? Non, c'est ses 150 chevaux. Alors, David, depuis le début de ma chronique, je vous vois consulter les photos les plus aguichantes de Kendall sur son compte Insta. Vous vous demandez forcément qui emmène-t-elle comme mec sur le siège passager de ses bolides. Eh ben, je ne voudrais pas vous décevoir et remuer encore le couteau dans cette plaie, cette blessure de jeunesse qui vous mine, mais oui, Kendall ne se tape que des basketteurs. Et pas des basketteurs amateurs, hein, des basketteurs de la NBA.
Qui savent dunker, oui.
Pas de regret. De toute façon, pour sortir avec Kendall, il faut, je la cite, ne pas avoir peur des virages serrés et des dérapages contrôlés. Vous, David, on connaît votre côté chochotte en sucre.
J'ai le mal de mer à vélo.
Voilà. Donc, heureusement que vous êtes nul en basket, vous auriez pu vomir dans la belle plaie de Kendall. Ça aurait fait des ordres.
Incroyable. Merci Mathieu, c'était 99% vrai. Bon, il y a quand même 1% de faux, mais j'aimerais bien savoir où.
Il y en a un peu plus. Elle a raté que 8 fois son permis, j'en ai un peu rajouté.
D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle fait de ces voitures?
Eh ben, elle les conduit, pour le coup, elle les conduit vraiment elle-même. Elle les conduit. Je crois pas qu'elle soit fan de vitesse, elle aime bien se montrer dans ses voitures, quoi, et faire des
petits
tours.
Ça fait partie de son style de vie, en fait, pour vendre ses photos.
Oui, et je crois qu'il y a des trucs incroyables. Là, je veux pas dire de faux chiffres, mais elle a tellement de followers sur Instagram qu'elle fait partie de ces gens qui non seulement en vivent, mais font des fortunes. Un post Instagram, si par exemple une marque lui dit, tu fais un post avec tel sac à main, voilà, je pense qu'elle prend plus de 100 000 $ pour faire juste une photo d'elle avec ce sac.
Voilà, moi, Stéphane, bien faire des photos aussi.
C'est ça qu'il faut viser, Stéphane.
Mais donnez-moi un sac, je fais une photo.
Mais il faut 131 millions d'abonnés, en fait.
Oui, 161.
Ah oui, c'est le plus dur. OK. Merci beaucoup, Mathieu.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous sommes dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre. On s'intéresse, ma foi, au côté pratique de l'histoire, ce que l'histoire a à nous dire de notre quotidien. Pour ça, on remonte aux origines d'une invention chaque jour avec vous, David Castello-Lopez. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'était notre spécial sur les femmes au volant. Vous avez donc trouvé une invention qui correspond à ce thème.
Tout à fait. C'est les essuie-glaces. Est-ce que quelqu'un ici sait imiter les essuie-glaces qui marchent pas?
Je vois ce que ça fait, non, j'y arrive pas.
Je vais essayer.
Ah, oui. Il sait même faire les essuie-glaces.
Toutes les langues. Fermez les yeux, s'il vous plaît.
Mmh.
Il a tous les talents. Vous êtes fascinant.
Pas mal, hein.
Pour quelqu'un qui n'a pas son permis, en plus.
Exactement. Et, mais ça vient, parce que j'ai beau pas avoir mon permis, j'ai beaucoup observé les voitures.
Et surtout quand j'étais passager.
Petit. Voilà, exactement. Quand j'étais petit, c'est ces heures d'observation, dans la voiture. Et, où les essuie-glaces, c'est quand même une des choses les plus fun quand on est enfant. Surtout la version intermittente, voyez. Parce qu'on voit les gouttes tomber sur le pare-brise, avec chacune leur personnalité de goutte, voyez. Et puis le balai arrive, et c'est une hécatombe. Les gouttes, elles s'agrègent.
Vous étiez donc déjà fou, enfant.
Un petit peu. Elles s'agrègent dans cette petite rivière verticale sur les côtés. C'est à la fois triste et génial. Et, du coup, ça donne envie de savoir d'où viennent ces instruments à génocider les gouttes de pluie. Bon, déjà, faut voir ce qu'il y avait avant. Et avant, eh ben, il y avait rien du tout.
Hein, voilà. Mais ça, c'est incompréhensible.
Mais oui, début 20e, quand vous vouliez enlever les gouttes de votre pare-brise, fallait arrêter la voiture. Mais la Duchesse d'Uzès, par exemple. Il fallait arrêter la voiture, sortir, nettoyer le pare-brise à la main, remonter dans la voiture et redémarrer. Et
tous
recommencer, bien sûr, à chaque fois que le pare-brise était plein de gouttes ou de neige.
C'est pour ça qu'en Angleterre, ils n'avaient pas de voiture.
C'est ça. Mais c'était sans compter sur une dame qui s'appelle Mary Anderson. On ne sait pas grand-chose d'elle, à part qu'elle est née en 1866 dans l'Alabama, dans une ville à la fois moyenne, moche et sans intérêt, qui s'appelait Birmingham, à peu près comme toutes les villes moyennes américaines.
Si on nous écoute là-bas, voilà. Bisous, bisous.
Et à l'hiver 1902, quand elle avait 36 ans, elle est venue en vacances à New York et elle a visité la ville en tram, sauf qu'il neigeait sa race. Et donc, elle a observé pendant toute sa visite le conducteur du tram qui faisait exactement ce que j'ai décrit, s'arrêter, sortir, nettoyer, redémarrer, etc. Et direct, elle s'est dit que ce serait bien si le conducteur pouvait faire la même chose sans sortir du tram. Et elle a dessiné une solution, elle a construit un prototype qu'elle a fait breveter.
Elle était ingénieure?
Elle n'était pas ingénieure,
non.
Elle était juste...
Elle a juste une idée.
Juste une idée, quoi. Alors, il fallait actionner l'essuie-glace à la main, hein, depuis l'intérieur de la cabine, ce qui était un peu chiant, mais quand même vachement moins chiant que de sortir de sa voiture et de le faire soi-même. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques jours, je vous ai raconté l'histoire de Betty Graham qui a inventé le Tipex et qui est devenue millionnaire. Et ben malheureusement, l'histoire de Mary Anderson, elle est plus classique puisqu'elle n'a pas touché un centime pour son invention.
Oh
bah oui, voilà. Elle a écrit à plein de fabricants automobiles pour essayer de leur vendre son
brevet.
Ils
ont tous piqué l'idée.
Ils ont tous dit fuck et il y a une lettre de refus qui a été conservée qui est assez rigolote. Je vous en lis un passage, hein. Chère madame, nous avons bien reçu votre courrier concernant la vente de votre brevet. Nous regrettons de vous dire que nous ne considérons pas votre invention comme ayant une valeur commerciale suffisante.
Oh bah tiens, voilà. Oh les salopes.
Ils se sont trompés, hein, voilà. Et finalement, ce sont d'autres modèles inventés par d'autres gens qui ont commencé à équiper les voitures. Mais il y a une histoire encore plus triste dans le monde des essuie-glaces. Voilà, ça fait plusieurs histoires pour un objet un petit peu banal. Cette histoire, c'est celle de Robert Kearns, un ingénieur de l'Indiana. En 1953, le soir de son mariage, Robert Kearns, il a reçu un bouchon de champagne dans l'œil. Ça lui a fait très très mal et petit à petit, il est devenu aveugle de cet œil. Voilà.
Oh, quelle horreur. Mais,
soirée de mariage assez sympa.
Vous me gâtez,
mais voilà. Et il a remarqué que son œil malade clignait de lui-même de façon intermittente et il s'est dit, vas-y, pourquoi les essuie-glaces, ils peuvent pas faire la même chose? Voilà.
Il avait bu le champagne aussi en même temps. Il avait pris le bouchon et il avait bu.
Et il a inventé un système qui faisait exactement ça. La fameuse intermittence, hein, qui me fascinait quand j'étais petit. Il a déposé plusieurs brevets. Puis il est allé voir les gens de Ford. Et chez Ford, ils ont examiné son système et puis ils ont dit, non, un peu comme Mary Anderson, ça nous intéresse pas, bof. Sauf que quelques années plus tard, Ford a sorti son premier modèle de voiture avec des essuie-glaces intermittents et c'était exactement le même design que celui de Robert.
Il a attaqué, il a gagné.
Et c'est là que ça devient tragique.
Oh non.
C'était en 1976, ça. Et jusqu'à sa mort en 2005, en gros, tout ce que Robert a fait dans sa vie, c'est se battre contre Ford et contre d'autres fabricants qui utilisaient son brevet. Il a quitté son travail, sa femme l'a quitté. Ford a fini par lui proposer des millions de dollars pour qu'il arrête. Et il a dit non, parce que ce qu'il voulait, c'était avoir le droit de fabriquer lui-même ses essuie-glaces et de les vendre à l'industrie automobile. Et il a continué. Il a quand même fini par gagner en tout 30 millions de dollars.
Oh.
Sauf que c'est...
Oh, bah c'est... Pour vous, c'est rien, mais c'est... pour beaucoup de gens, c'est quand même une petite somme qui permet de démarrer dans
ça
la vie.
Ça permet de voir
l'ancien. Sauf que c'est beaucoup moins que ce qu'il aurait pu avoir. Et surtout, il avait déjà dépensé une bonne partie de cet argent en frais d'avocat. Et il est mort tout seul en 2005 d'un cancer du cerveau.
C'est horrible.
Les belles histoires.
David
Castello-Lopez.
L'histoire de Robert, elle a quand même donné un film qui s'appelle Un éclair de génie et qui est sorti en 2008, un film hollywoodien. Donc c'est déjà ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu tout ce truc tragique, il n'y aurait pas eu de film hollywoodien.
C'est vrai, c'est le bon côté des choses.
Donc voilà, petit bon côté des choses.
Et maintenant, il y a encore plus génial, c'est les détecteurs qui repèrent l'eau qui vient sur le pare-brise et à ce moment-là, tac.
Et qui adaptent la vitesse des essuie-glaces à la quantité d'eau qui tombe sur le pare-brise.
Je sens que ça passionne Stéphane. Stéphane, j'ai jamais vu ça sur votre voiture, les essuie-glaces qui marchent tout seuls.
Non, jamais. Mais j'ai pas des voitures non plus de compétition.
En tout cas, merci David Castillo-Lopez. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et maintenant, c'est l'heure de mon cadeau, chers auditeurs. Alors, mon cadeau, c'est Olivier, vous
c'est
vous rappelez
moi.
Alors, c'est vous, mais ce que vous m'apportez, c'est de la vinaigrette, c'est ça?
Un peu mieux que ça, cher Mathieu.
Ah oui,
du vinaigre, digne de vous.
Du vinaigre balsamique. Merci d'avance, Olivier.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, l'histoire qui nous raconte notre quotidien. Sa manière de nous décrire une recette, à grand renfort de gestes ambigus et d'expressions équivoques, déstabilise parfois nos invités, comme Jules l'autre jour.
Il faut qu'elle prenne de la consistance, elle va devenir sirupeuse. Et à partir du moment où vous voyez que vous avez une texture qui est plus proche d'une mayonnaise...
Un jour, j'aimerais bien vous entendre expliquer comment on fait les bébés.
Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Aujourd'hui, vous allez nous apprendre à faire, non pas de la mayo... Mais de la non du vinaigre balsamique on ne le fait pas soi-même.
Non, mais je vais vous donner une petite recette avec du vinaigre balsamique. Oui, il y a quand même un savoir-faire un peu particulier, ça prend un peu de temps à faire de
on
l'authentique vinaigre. Ben ça prend entre 12 et 50 ans quand même. Donc je sais pas si vous avez un petit moment devant vous.
Venez dîner à la maison dans 50 ans.
Voilà, venez dîner dans 50 ans, vous aurez mon vinaigre balsamique si vous voulez. Bon, en attendant, on va l'acheter.
C'est pour ça que c'est si cher.
Et vous imaginez une petite fiole de vinaigre à peine haute comme ça avec 25 centilitres dedans vendue 5000 euros.
Ça existe.
Il y a du vinaigre balsamique qui vaut plus de 20 000 euros le litre.
Mais enfin, qui achète
ça? Ce sont des vinaigres balsamiques qui ont plus de 100 ans.
Oui, mais ils sont pas forcément meilleurs.
Attendez, il y a une question, Olivier. Le vinaigre balsamique est forcément de Modène, parce que l'autre jour, j'étais en Charente, à Bouteville.
On vous arnaque.
Et il y a un baume de Bouteville, qui est excellent d'ailleurs, et qui est selon la recette balsamique, en fait, du vinaigre balsamique.
Excellente question, Stéphane. En réalité, le terme vinaigre balsamique n'a pas été protégé. Et donc, on fait du vinaigre balsamique un peu partout. Ce qui est protégé, c'est le vinaigre balsamique traditionnel de Modène ou de Reggio Emilia, qui sont les deux villes dans lesquelles on peut faire l'authentique, le vrai vinaigre balsamique en appellation d'origine protégée. Mais on peut faire du vinaigre balsamique dans le monde entier et selon, souvent malheureusement, des recettes qui n'ont rien à voir avec le traditionnel
vinaigre.
Comment
distinguer un bon vinaigre balsamique d'un faux, en fait?
Eh bien, il faut regarder l'étiquette.
Et qu'est-ce qu'il doit y avoir écrit?
Eh bien, sur l'étiquette, normalement, un vrai vinaigre balsamique ne contient que du moût de raisin qui a été cuit et qui a ensuite été transformé en vinaigre. On n'y a rien ajouté d'autre. Or, dans bon nombre de vinaigres balsamiques pas chers vendus en grande surface qui sont des produits industriels, vous allez regarder et lire l'étiquette et vous allez voir qu'on y a rajouté du caramel. Parce que ça le permet de le colorer et ça permet de l'aromatiser.
Ça doit être bon.
Non, c'est pas bon du tout, ça n'a surtout strictement rien à voir avec cet authentique vinaigre qui date du XVIe siècle dans le duché de Modène et qui est un savoir-faire absolument unique parce que qu'est-ce qui permet de faire un vrai bon vinaigre balsamique? C'est d'abord effectivement ce moût de raisin cuit, issu d'un certain nombre de cépages, il y a une dizaine de cépages qui sont autorisés. Et ensuite, ce vinaigre, il est élevé dans des fûts de chêne de différentes essences et c'est ce fût de chêne et la longueur de l'élevage qui va conférer au vinaigre ses caractéristiques. Il va se concentrer en goût, il va acquérir des goûts d'ailleurs différents en fonction des fûts de chêne.
J'ai l'impression que vous nous parlez de vin tellement ça a l'air
c'est très
précis.
Proche, c'est très très proche du vin. C'est le même procédé en réalité. Et l'élevage pour avoir un authentique vinaigre traditionnel, c'est entre 12 et 50 ans. Et si vous avez des élevages qui sont plus courts ou des ajouts de produits, ce n'est pas de l'authentique vinaigre balsamique de Modène ou de Reggio Emilia. Et vous en avez donc qui ont plus de 100 ans. Il y a encore des fûts qui sont gardés de là-bas. Alors là, autant vous dire que la petite goutte est absolument prodigieuse parce que c'est un vinaigre qu'il ne faut pas cuire, qu'il ne faut pas mélanger non plus dans une vinaigrette, c'est complètement gâché, et qu'on utilise vraiment comme une essence. Balsamique vient de baume d'ailleurs. Oui. C'est une essence, c'est la concentration des goûts. Et là, je vous donne une petite recette extrêmement simple pour magnifier le vinaigre balsamique
donc
que je vais vous offrir.
Une petite bouteille de vinaigre balsamique à 5000 euros.
Voilà.
Ça, c'est la base de la recette.
Alors,
et ensuite, qu'est-ce qu'on met?
Je suis en attente du crédit auprès de ma banque pour être sûr de pouvoir vous l'acheter. Mais dès qu'il me donne le feu vert, je file au magasin. Alors, vous allez faire des, on est en pleine saison de la poire, vous allez faire des poires pochées au sirop, un sirop vanillé, c'est très simple. Donc, un litre d'eau, 200 grammes de sucre, un jus de citron, un petit peu, quelques grains de poivre, une gousse de vanille. Vous portez cet ensemble à ébullition, ça vous donne un sirop, et dedans vous allez pocher des poires que vous aurez évidemment épluchées et vidées, vous les pochez en environ 20-25 minutes, tant qu'elles soient bien ramollies, vous les sortez, vous les égouttez, et vous les mangez tout simplement comme ça, recouvertes d'un petit trait de vinaigre, de vieux vinaigre balsamique.
La poire et le vinaigre balsamique, c'est
vrai. Oui, bah, vous savez, ces vinaigres, en fait, ils ne piquent pratiquement plus. Vous pouvez les boire à la petite cuillère, tellement ils sont concentrés, tellement il y a de la longueur en bouche et de la complexité. Alors, on n'est pas évidemment obligé d'aller jusqu'à des vinaigres qui valent 5000 euros la petite fiole, hein. Mais vous trouvez aujourd'hui autour de 30-40 euros des petites bouteilles d'un vinaigre balsamique de 12-15 ans qui est déjà absolument remarquable.
Ça vaut le coup, ça donne du relief.
Oui,
et
puis surtout, on en utilise très peu. C'est à peine une petite cuillère à café. Donc, la bouteille, vous allez la tenir pendant quelques semaines. C'est un petit investissement. Mais franchement, vous allez rentrer dans un autre univers de ce que vous pouvez pas imaginer être du vinaigre.
Oh! C'est tellement bien raconté, Olivier, ça donne envie de sauter sur la bouteille de vinaigre.
Mmh. En tout cas, merci Olivier. Et on peut retrouver évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. On vous retrouve demain dès 11h autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Stéphane, c'est vous qui aurez le mot de la fin. En tout cas, comme d'habitude, aujourd'hui, vous nous décryptez une expression, avoir une chance de cocu.
Mais oui, pourquoi on dit avoir une chance de cocu? Si on est cocu, on n'a pas de chance.
Oui, mais surtout, je le confirme. Oui, je ne sais pas si vous cherchez à me faire passer un message pour mon anniversaire, mais enfin, on découvrira le sens de cette expression.
Écoutez, arrêtez d'être égocentré.
J'ai peur.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Sa culture est immense, comme il le dit souvent en moment fatidique dans l'intimité.
Je ne sais pas si elle est très grosse, mais elle est efficace, oui.
Stéphane, merci d'avance de nous faire profiter de votre énorme culture, surtout linguistique, puisque c'est le moment du mot de la fin chaque jour. L'expression du jour décortiquée par vous.
Alors justement, avant de commencer cette chronique, Mathieu, pour éviter tout malentendu, permettez-moi de saluer votre amoureuse, que personnellement je trouve charmante.
Il y avait un doute.
Sans transition donc, l'expression du jour c'est « avoir une chance de cocu ».
Bien.
Cette expression trouve son origine au 19e siècle, quand on est confronté à l'infidélité de sa compagne. Oui, à cette époque, comme maintenant d'ailleurs, on trouve la situation scandaleuse. Que si c'est l'homme qui est trompé, hein,
bon,
vous avez remarqué,
bon,
hein, d'ailleurs, les pièces de Feydeau ne racontent que ça. Quand on est confronté à l'infidélité de sa compagne, disais-je, le bon sens populaire estime qu'on ne peut pas être plus accablé, hein, on peut pas tomber plus bas. Du coup, on devient forcément chanceux. On dit ainsi, malheureux au jeu, heureux en amour. On dit aussi avoir une veine de cocu, parce que la veine en géologie, c'est l'endroit où l'on trouvait les métaux précieux dans la terre.
Ah.
Mais cocu viendrait de l'oiseau coucou, qui, comme chacun sait, n'est pas d'une fidélité exemplaire.
Mais alors, comment on dit être chanceux dans les autres pays, Stéphane?
Alors, en Angleterre, on dit to be jammy, à savoir
jammy
être... à savoir être couvert de confiture. Moi, personnellement, je ne vois pas où est la chance là-dedans, sauf si on aime la déguster à même la peau, mais chacun ses pratiques, hein. Au Brésil, on dit « nascido de cuvirado por pralua ».
Être... Cuvirado por lua, oui, tout à fait.
On n'aurait pas du tout la même langue d'une bouche à l'autre.
Non, parce que lui parle...
Né le cul tourné vers la lune.
Voilà, être né le cul tourné vers la lune. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on capte le mieux Europe 1, mais en tout cas, c'est l'expression qui dit qu'on a de la chance. Et puis, terminons avec le bon mot d'un auteur belge, pour faire plaisir à Olivier, Gaëtan Fossé. L'ambidextre qui a deux mains gauches n'a vraiment pas de chance.
Avec un belge pour la trouver celle-là. Merci beaucoup Stéphane. Historiquement vôtre, rendez aujourd'hui hommage aux pionnières de l'automobile. Lequel de ces portraits de femmes, de Françoise Sagan à Kendall Jenner, en passant par la duchesse d'Uzès, vous a le plus étonné, Stéphane?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé les précisions d'Alain Vercondelet sur Françoise Sagan et ce qu'elle représente à la fois dans l'imaginaire collectif et la littérature française.
Une question se pose, Stéphane, vous-même, êtes-vous un as du volant? Vous avez un chauffeur? Comment ça se passe?
Non, j'ai pas de chauffeur, voyez-vous, j'ai une toute petite voiture que je conduis. J'essaye de conduire convenablement.
Vous avez tous vos points?
Un ou deux près,
non,
voyez-vous.
Oui, un ou deux près.
Mais c'est vrai que je conduis assez vite. J'aime pas les gens qui l'embinent, surtout quand il pleut.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, le mec qui est en fou du volant, c'est un gros chauffard. Bon,
non, Stéphane. J'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que j'ai fait partie des gens qui klaxonnent. Oui.
On se retrouve demain?
Ben oui, à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.